Notre invitée, la pianiste Shani Di Luca, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous serez en concert ce dimanche 29 août à 16h au festival Les Solistes à Bagatelle, un programme Beethoven, Schubert, Liszt et Wolfgang Riem. Une édition cette année un peu spéciale qui aurait dû avoir lieu l'an dernier, les 20 ans du festival Les Solistes à Bagatelle, qui accueille donc pour l'occasion 12 musiciens, dont vous, Shani Di Luca, des musiciens qui ont fait leur premier pas au festival au début des années 2000. C'était quand pour vous la première fois ?
La première fois dans ce fut festival en 2002. Donc pour moi c'était aussi mon premier récital à Paris, j'étais encore étudiante. Ah oui. Donc je n'oublierai jamais en fait.
Ils vous ont fait confiance.
Festival. Oui, vraiment c'était une sorte de tremplin. D'ailleurs cette année-là, je crois que ça a été un peu déclencheur parce que René Martin m'avait aussi remarqué la même année. Je me souviens qu'après le concert de Bagatelle, Classica Repertoire avait fait un portrait, un disque sur moi. Donc c'est vrai que c'était vraiment mon premier grand récital à Paris en tant qu'étudiante et Anne-Marie Rébi m'a fait confiance dès le départ.
Mmh. Vous vous rappelez le programme que vous jouiez en 2002 ?
Alors j'ai fait un programme Brahms, les Intermezzi opus 118, et en musique contemporaine, donc puisque ça c'est vraiment une des marques du festival.
Absolument.
Et c'était Tristan Murail, c'était Mandragore.
Et donc, vous en avez parlé, comme pour tous les concerts solistes à Bagatelle, un compositeur contemporain à l'honneur. Et vous, pour cette année, c'est Wolfgang Riem, pardon, et son Ländler, une pièce de 1979. Alors, je sais que vous avez travaillé, collaboré avec le compositeur directement, Wolfgang Riem. Pourquoi cette œuvre-là, précisément, dans votre programme cet été ?
Alors, c'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer au Festival de Davos, où il était en résidence. J'avais joué plusieurs de ses œuvres, notamment des Klavierstück, qui étaient toujours une filiation très intéressante chez Wolfgang Riem avec la tradition beethovenienne. Et là, en l'occurrence, le Ländler, c'est un lien avec Schubert. Et mon programme est construit à peu près autour des compositeurs viennois, donc je dirais Schubert, Beethoven, Liszt, dans le sens que Liszt fera une transcription des leaders de Schubert. Et il était très intéressant d'associer pour moi l'œuvre de Wolfgang Riem, le Ländler, même si c'est 1979. On voit les prémices de son écriture, ce lien avec le passé, sa modernité. Et il y a vraiment une relation organique avec la musique de Schubert, donc que je joue au préalable. Donc j'ai choisi de mettre en une sorte de transcription du Quatuor Rosamund, du Scherzo, qui apparaît de façon fantomatique dans cette pièce de Ländler de Wolfgang Riem. Donc ce qui est vraiment intéressant avec le Festival des Serres d'Auteuil, c'est que, Serres d'Auteuil au départ, maintenant Bagatelle, c'est que dès le départ, Anne-Marie Rébi tenait à mettre la musique contemporaine au cœur du programme. Et en tant que jeune pianiste, c'était très inspirant aussi d'être à l'écoute de notre temps face à un répertoire sacré, presque ancestral, mm-hmm. et d'arriver à composer un programme. Je trouve que c'est vraiment très important qu'on ait ce pied dans le monde actuel.
On en est bien d'accord, nous ici aussi à Musique Matin, puisqu'à 8h25, juste avant de recevoir nos invités, on écoute aussi la musique qui se fait justement aujourd'hui. Et puis pour revenir à Schubert, vous me disiez que jeudi ou vendredi, vous alliez interpréter Schubert déjà en Autriche.
Oui, en fait, c'est une semaine un petit peu où
c'est
je reviens à l'Autriche. En fait, j'étais pendant 2 ans pratiquement à Vienne. Je viens de rentrer à Paris. Et là, je retourne aux fameuses Schubertiades de Schwarzenberg, où je joue là depuis plusieurs années. Et je vais jouer la truite de Schubert avec un quatuor berlinois qui s'appelle Manderling Quartet. Et ça va être enregistré par la Radio Nationale Autrichienne. Donc, je vais un peu courir de l'Autriche, en tout cas
à l'Orangerie de Bagatelle.
Voilà.
Pour ce week-end.
Tout à fait.
Les Solistes à Bagatelle, donc vous serez en concert Shani Di Luca ce dimanche 29 août à 16h. Thank you. À 8h37 sur France Musique, la délicatesse, la sensualité de cette pièce lyrique pour piano d'Edvard Grieg, souvenir opus 71 numéro 7 par notre invité ce matin, Shani Di Luca. Shani Di Luca, vous nous disiez que c'est la dernière des pièces lyriques pour piano de Grieg, il y en a peut-être 50, 60, et elle est en lien avec la toute première de ces pièces lyriques.
Oui, tout à fait. En fait, ce qui est assez magique avec ces pièces lyriques, c'est un petit peu le journal intime de Grieg qui l'a accompagné toute sa vie. Oui. Et la toute première pièce des pièces lyriques, c'est exactement la même œuvre, sauf que c'est en binaire, de façon presque schumannienne, et une sorte de question qui va ouvrir tout ce cahier de pièces lyriques. Et puis, il choisit de terminer à la fin de sa vie avec les mêmes harmonies, sauf que ça sera en ternaire, une sorte de valse oubliée, en suspens, comme une question philosophique qui ne trouvera jamais de réponse. Mmh. Et je trouve ça très émouvant, en fait, d'entendre la première et la dernière pièce, là, en l'occurrence, Souvenir.
La dernière. Et vous l'avez enregistré, ce disque, sur le piano de Grieg, dans sa maison.
Oui, si on écoute attentivement, le son est un peu particulier.
C'est à Bergen, donc.
C'est son Steinway de 1892, dans sa maison à Bergen, dans les fjords, et j'ai eu la chance d'enregistrer ses pièces lyriques sur son piano.
Et puis, Shani Di Luca, il y a votre nouveau disque, Cosmos, on vous a entendu ici au micro de Jean-Baptiste Urbain pour en parler, mais on va en parler nous aussi parce qu'on veut l'écouter. Sorti en février dernier, un voyage beethovenien en Inde, en Orient, où vous êtes accompagné de musiciens indiens. La rencontre entre les grandes sonates de Beethoven et les ragas indiens, un lien que vous n'avez donc pas inventé.
Non, pas du tout. En fait, quelque part, je viens d'une tradition avec des professeurs comme Leon Fleischer, Per Aya ou les Alban Berg Quartet. Ce sont des gens qui sont un peu mes mentors. Et la tradition puriste beethovenienne, c'est de respecter avant tout l'œuvre. Mais le trajet est aussi dans la lecture des correspondances, dans l'étude des manuscrits, des facsimilés.
Et c'est là que vous avez découvert.
J'ai découvert que Beethoven était intéressé par la spiritualité indienne. À cette époque, en 1819, les premiers écrits indiens étaient traduits en Allemagne, et avec Goethe, son grand ami, ils sont plongés dans ces écrits orientaux, donc notamment Hafez, le divan oriental occidental, et puis les Upanishads, donc ce sont ces prières anciennes indienne, que Beethoven a recopié lui-même à la main sur ses carnets et même souligné certains mots comme l'homme et l'univers. Et je me suis dit qu'un dialogue était vraiment intéressant, un petit peu dans la résonance de ce que faisait Menuhin avec Ravi Shankar, mais une sorte de dialogue où les grandes cultures se rencontrent dans une sorte d'élévation spirituelle. Donc c'était vraiment le but de ce disque un peu inédit et qui résonne évidemment avec mes origines personnelles, mais c'est surtout de voir
que... Vous êtes né de parents sri-lankais.
Voilà, c'est ça. Donc, et je vais souvent en Inde, et c'était aussi de montrer que voilà, il y a un dialogue possible dans des cultures très lointaines lorsqu'on est à un certain degré d'élévation. Et je crois qu'en concert ou en disque, j'ai vraiment eu un retour merveilleux de cette expérience.
Ouais. Vous êtes accompagné à la sitar par Mehboob Nadem et joueur de tabla Mitel Purohit.
Tout à fait.
Que l'on va donc écouter sur ce disque. Est-ce que ici, précisément, ce sont deux mondes qui se rencontrent et qui se comprennent, peut-être pour contredire Kipling qui disait, j'ai retrouvé ça hier, l'Orient, c'est l'Orient. L'Occident, c'est l'Occident, et jamais ces deux mondes ne parviendront à se comprendre.
Alors là, je le contredis. Alors, dans le sens où, effectivement, ces deux spiritualités qui semblent lointaines, mais justement, je pense que ce projet, et Menuhin et Shankar l'ont compris, c'est aussi, comme je vous disais, au moment d'une certaine... dimension spirituelle et même organique, puisque quand on analyse de près les sonates beethoveniennes, ça part d'un leitmotiv qui se développe en forme sonate et on voit tout le développement de ces éléments, et c'est exactement la même construction dans les ragas. Le raga part d'un intervalle, et dans la construction on retrouve le nombre d'or, on retrouve le climax, et on a vraiment un parallèle, c'est ça qui m'a fascinée en analysant les ragas et en travaillant bien sûr depuis toujours l'analyse des sonates de Beethoven, de voir à quel point dans la construction mentale de l'être humain, on arrive à un degré de beauté qui est similaire, même avec des cultures très différentes. Donc ça, je trouve que c'est extrêmement moderne, et j'ai l'impression que Beethoven en était convaincu, d'où sa curiosité. En tout cas, je ne peux pas parler à sa place, mais ce qui est vraiment flagrant, c'est cette idée de trouver le sens de l'humain dans sa musique, le sens de l'homme dans la place du cosmos, de l'homme dans l'élévation, dans... Voilà, l'homme au centre de l'univers. Et je trouve que ça, c'est vraiment très émouvant de voir Beethoven aussi ouvert d'esprit.
Le joueur de tabla et de sitar qui vous accompagne sur ce disque, comment ils ont appréhendé, vu, abordé ce que vous leur proposiez, c'est-à-dire Beethoven et l'Orient dans ce disque-là?
Alors évidemment, ils étaient très intrigués. Ils connaissaient Beethoven de nom, mais ils ne connaissaient pas vraiment profondément. Donc j'ai passé du temps à leur faire écouter les sonates, à expliquer la construction. Ils ont été... bouleversée par Beethoven, par la force et la profondeur. Donc là, à nouveau, c'est très beau de voir que des personnes d'une culture si lointaine peuvent être bouleversées. D'ailleurs, je l'ai vécu en Inde, quand j'ai joué Beethoven en Inde à des gens qui l'avaient jamais entendu. Et puis, ce qu'on a fait ensemble, c'est de prendre les intervalles de Beethoven, donc de la Passionata ou du Clair de Lune, et reprendre ces tonalités dans leur raga. Donc, ils ont pris les leitmotifs beethoveniens et ils ont fait une improvisation dans la forme d'un raga pour ce disque. Donc, ça a été vraiment fait vraiment de façon très spécifique.
On va en écouter un extrait de ce disque. Évidemment, ça donne envie. J'ai dit la sitar. Évidemment, c'est le sitar. Excusez-moi. Voici l'allegro assai de la sonate Appassionata de Beethoven. Shani Di Luca au piano, Mebob Nadem au sitar, décidément. Mitel Purohit, joueur de tabla. Un extrait du mouvement Allegro assai de la sonate numéro 23 de Ludwig van Beethoven, interprété par Shani Di Luca, et vous l'avez entendu, Mebob Nadem au sitar et Mitel Purohit tabla, sans doute l'un des projets les plus insolites de l'année Beethoven de l'an dernier. Shani Di Luca, vous êtes notre invitée ce matin, entre autres pour nous parler de ce disque qui s'écoute d'ailleurs comme une invitation au voyage et à la méditation d'ailleurs.
Oui, l'idée c'est d'avoir une réflexion par le biais de la musique et par les profondeurs beethoveniennes. Là en l'occurrence, le tabla va apparaître plus tard lors d'une cadence comme un Orphée qui surgit de l'abîme beethovénienne. Mais c'est vrai que l'idée c'était vraiment plutôt, ce n'est pas de la fusion, c'est vraiment un dialogue et une réflexion sur cette écoute entre les cultures. Je pense que Beethoven nous donne une leçon d'humilité et même d'intérêt sur l'autrui. L'autrui est une inspiration et je crois qu'aujourd'hui on a vraiment besoin de cette bienveillance.
Et donc on l'a vu et puis vous nous en avez parlé, il s'était vraiment pris de passion pour ce livre du 19e siècle, en tout cas traduit, et qui lui avait été donc mis à disposition de toute cette culture indienne, etc. Et il y a aussi une force un peu extraordinaire dont vous parlez souvent, qu'il lui-même était sourd. Il y avait aussi dans la méditation, il y a ça, il y a la force de la spiritualité, du cerveau. Et l'envie de continuer, toujours une force.
Oui, alors évidemment, Beethoven, par sa surdité, a fait un chemin qui lui est propre, en passant par le testament d'Heiligenstadt, mais par son génie, une force créatrice, c'est-à-dire que cet handicap est devenu un moteur de création, et certainement son génie accompagne tout cela, c'est-à-dire que le génie qu'on ressent dès ses premières œuvres. Mais il est évident que ces résonances particulières qu'on retrouve dans l'écriture beethovenienne, notamment pour ce travail de pédale qui est assez particulier dans les sonates de Beethoven, dans ce travail de tessiture qui est très moderne, puisque vraiment Beethoven va révolutionner le langage, et son travail avec les facteurs de piano, lui qui cherchait de plus en plus de résonances, ces harmoniques qui certainement habitaient son esprit, donc avec des sons inédits qu'on a encore aujourd'hui. Il faut avoir le courage de garder les pédales beethoveniennes, même si les pianos sont modernes, d'avoir dans l'esprit ces résonances, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et dans les sitars, dans la musique de sitar et tabla, il y a ces quarts de ton, il y a ces résonances aussi qu'on retrouve. Et je me suis dit que voilà, ce mariage pouvait être vraiment intéressant dans ce spectre sonore qui n'est pas si lointain au final.
Et Beethoven qui sera donc au programme avec ce jeu de pédales, justement, vous serez en concert ce dimanche 29 août au Festival Les Solistes à Bagatelle à 16h. Vous interpréterez sa sonate Les Adieux et l'autre Clair de Lune, Beethoven, et puis également Schubert Liszt et puis Wolfgang Rihm. Ça c'est ce dimanche, et puis d'autres projets parisiens en novembre. Le 14, vous serez avec Pierre Fouchonneret et Nathalie Dessay à 11h. Le 14 novembre, au Théâtre des Champs-Élysées, avec un disque, un projet autour de Proust, et donc un futur disque. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Écoutez, finalement, le programme de dimanche, c'est vraiment ma période viennoise. Je l'ai préparé avec Elisabeth Leonskaya, avec qui je travaille depuis plusieurs années. Donc, c'est vraiment un aboutissement de le jouer ici à Paris. Et puis, il y a ce répertoire français, l'âge d'or de la musique française, qui sera donc le sujet de mon prochain disque chez Warner Classics, autour de La recherche du temps perdu de Proust. Donc, tous les compositeurs aimés et cités par Proust dans La recherche du temps perdu. Et Jeannine Rose, qui a fait confiance l'année dernière, c'était mon dernier concert à Paris en février avant le Covid, le 23 février, a fait confiance pour ce projet Cosmos de l'année dernière, et là elle me refait confiance sur ce projet Proust, donc je suis très heureuse de jouer dans ce concert du dimanche matin, donc le 14 novembre, avec comme invité Nathalie Dessay, qui fait partie aussi du disque puisqu'elle a enregistré des mélodies qui sont vraiment citées par Proust, et puis j'ai aussi un moment assez émouvant le 18 novembre avec Hervé Niquet, l'Orchestre de Paris, ouais, où je jouerai le très rare concerto de Reynaldo Hahn, qui a été créé il y a pratiquement un siècle au même endroit par Reynaldo Hahn et Magda Taliaferro. Et ça n'a jamais été rejoué depuis, donc ça va être une sorte de redécouverte. Mmh. Et ça fait partie aussi de ce disque Proust, puisque Proust et Reynaldo Hahn avaient une relation très intime.
Absolument. Jeannie Di Luca, donc en concert à Bagatelle ce 29 août, et donc en novembre les 14 et 18 au Théâtre des Champs-Élysées. Jeannie Di Luca, on le voit, hein, vous êtes très ouverte par vos répertoires, la musique d'aujourd'hui, le grand répertoire, des récitals, concertistes, chambristes, et puis le cinéma aussi, la poésie. Vous avez publié un recueil de poésie qui s'appelle Canopée, qui est sorti en 2018. C'est vous qui avez écrit les poèmes ?
Tout à fait, en fait, je ne peux pas concevoir un monde sans poésie et sans musique, et depuis mon adolescence, j'ai toujours un carnet avec moi, donc dans les escales, dans les moments de silence qu'on a si souvent en tant que soliste, dans les chambres d'hôtel, j'écris sans cesse entre les partitions, et donc les éditions Art 3 voulaient éditer en fait mes livrets de disques, et finalement ils ont voulu éditer une partie de mes poèmes, donc c'est un choix parce que j'en ai écrit plus de 500, mais je sors le second recueil au printemps prochain.
Ah, d'accord.
Donc voilà, la poésie m'accompagne.
Et vous dites que vous écrivez des poèmes, est-ce que vous écrivez de la musique aussi, la composition, ça vous tente ?
Alors écoutez, quand j'étais enfant, j'étais plus connue comme compositrice que pianiste, c'est-à-dire que j'ai beaucoup composé entre l'âge de 7 ans et 15 ans, et tout en faisant mon piano.
C'est pas banal comme réponse.
Mais au fur et à mesure que je côtoyais Mozart, Beethoven et Bach, je trouvais que ce que je faisais était tellement trop simple et que l'expérience de ces grands compositeurs était pour moi plus enrichissante. enregistrante parce que je me sentais pas à la hauteur en tant que compositrice. Donc j'ai arrêté net de composer, même si je garde ça dans ma tête toujours quand j'improvise. Mais c'est vrai que là, vraiment, je me suis consacrée, surtout quand j'ai la chance d'avoir rencontré des grands maîtres.
Bien sûr.
Je sens que c'est une responsabilité de pouvoir transmettre leur savoir aujourd'hui.
La création par l'interprétation et puis quand même aussi l'écriture de la poésie. Donc on pourra reparler de ce nouveau recueil de poésie. Shani Di Luca, une dernière question avant de se quitter. Déjà, quel est le lieu où vous iriez en écoutant quelle musique et avec qui? Pouvez-vous nous dévoiler ça?
Alors, y a beaucoup de noms qui me viennent à l'esprit, évidemment Clara Askill ou Kleiber, mais ce sont des gens qui sont dans le silence et dans le mystère. Et finalement, j'ai découvert grâce à Elisabeth Leonskaya récemment, on regardait ensemble des vidéos de Sander Weg. Et j'aimerais vraiment imaginer des balades en forêt avec Sander Weg, en écoutant Schumann, par exemple, le paradis et la pairie, et comprendre cet instinct musical et puis en même temps cette connaissance, puisqu'il a travaillé avec Kodály et Bartók. En tout cas, il a joué beaucoup d'œuvres de Bartók. Et quel est ce mystère entre la structure, la profondeur de ces grandes musiques et le lien avec la nature et le folklore? Donc j'aurais adoré passer du temps avec Sander Weg.
Merci beaucoup Shani Di Luca d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite de bons concerts en Autriche et à Paris.
Merci.
Et partout ailleurs dans le monde. Merci pour votre ouverture et vous voici dans une pièce que j'aime beaucoup, que vous avez interprétée, l'Allegro du concerto en ré mineur de Carl-Philippe Emmanuel Bach.
Merci.
Très bonne journée.
Bonne journée. Thank you.
Un extrait du premier mouvement Allegro du concerto en ré mineur de Carl-Philippe Emmanuel Bach, interprété par l'Orchestre de Chambre de Paris, dirigé par Ben Klasberg et Shani Di Luca. Au piano, et c'est avec Carl-Philippe Emmanuel Bach, bien-aimé de Beethoven, que nous nous quittons pour ce Musique Matin, ce matin. La réponse à notre jeu, l'ensemble Solazzo, est un ensemble suisse qui s'est formé à Bâle. Bravo à vous, trois gagnants ce matin, Brigitte à Brunois, Muriel au Haut-de-Caux et à Jean à Bordeaux. Merci à toute l'équipe de Musique Matin. Valentin Carpentier, Margot Muller, Thaïsia Froidur à la réalisation et à la technique avec nous ce matin, Jean-Frédéric et Frédéric Kiefer. Je vous retrouve demain à 7h30 et à 8h30, nous recevrons le contre-ténor Damien Guillon.